Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
19h22 avec ce soir dans le débat du Club des Idées, le télétravail pour tous en question. C'est l'une des grandes annonces qui pourrait être faite par l'exécutif dans les prochaines heures pour endiguer la propagation de l'épidémie. Tous en télétravail pour une durée assez longue. On sent que le gouvernement est là aussi en train d'opérer un virage pour éviter de casser la reprise timide de l'économie française. D'ailleurs, c'est l'une des questions que l'on va se poser ce soir. Pourquoi avoir tant tardé? Pourquoi le télétravail n'est-il déjà pas généralisé quand cela est possible? On en parle donc ce soir avec nos invités. Benoît Serre, vice-président de l'Association Nationale des DRH et directeur de Boston Consulting Group. Bonsoir.
Bonsoir.
On en parle également avec Bernard Vivier, directeur de l'Institut Supérieur du Travail. Bonsoir Bernard. Bonsoir. Et on en parle avec Bertrand Martineau, économiste et spécialiste de l'emploi et du travail chez Ciassi Saint-Honoré, ça se prononce comme
tout à fait.
Ciassi Saint-Honoré, bienvenue et merci de votre présence. Elisabeth Borne, d'abord, ce matin, au micro de nos confrères à la radio, écoutez.
Il faudra qu'on regarde les sujets de télétravail notamment, même si on est bien protégé dans son entreprise, c'est important dans le contexte actuel de l'épidémie d'éviter les déplacements, d'éviter aussi les contacts qu'on peut avoir en marge de son travail. Donc je pense que c'est important d'aller à fond sur le télétravail pour les postes qui peuvent être télétravaillés.
Voilà, c'était Elisabeth Borne ce matin à la radio. Il faut aller à fond sur le télétravail. Alors c'est vrai que beaucoup s'interrogent aujourd'hui sur la timidité du gouvernement à ne pas avoir poussé davantage pour une généralisation du télétravail. Plutôt, fallait-il le rendre obligatoire, Benoît Serre?
Je ne sais pas s'il va être obligatoire. Ce que je sais, c'est que le gouvernement n'avait pas les moyens de le faire.
Et pourquoi?
Parce que les textes aujourd'hui ne permettent pas vraiment d'imposer un modèle de travail. Vous savez que le télétravail s'installe soit via un accord dans l'entreprise, soit via une charte, c'est-à-dire où vous ne passez pas avec les syndicats. Donc il a
parce que
poussé...
j'ai vu qu'à Bruxelles maintenant c'était obligatoire le télétravail.
Oui, mais
donc, ce qui est possible là-bas, une instance d'entreprise, un établissement,
une entreprise peut décider le télétravail, mais le gouvernement peut pas légiférer, sauf à faire une loi, mais ça c'est autre chose. Sauf pendant la période qu'on a connue, qui était celle du confinement, où là il avait posé le télétravail de principe parce qu'il y avait le confinement. Donc les gens n'avaient pas la possibilité de se déplacer. Ils étaient soit en télétravail, soit en chômage partiel, soit sur site. Parce qu'il ne faut pas perdre de vue, dans tout ce qu'on entend, que un peu plus de 50% des Français ont des métiers qui ne sont pas, à ce jour, télétravailleurs.
Oui, mais c'est vrai qu'on a pris un retard considérable. Et tous les scientifiques disent aujourd'hui, pour réduire nos contacts physiques, qui sont un lien de et un lieu de propagation du virus, on estime aujourd'hui que le travail, les entreprises, c'est l'endroit où on compte le plus de clusters en France, 25% des clusters. Bernard Vivier, est-ce qu'on a trop tardé à passer au tout télétravail?
Non, parce que si effectivement ne pas faire du télétravail, ça peut être regretté, certains peuvent le regretter en disant ça va bloquer l'activité. Non, travailler, c'est aussi travailler ensemble.
Oui.
L'entreprise est une communauté humaine avec des personnes qui ont besoin d'être ensemble, de se regarder, de discuter, d'aller à la machine à café, de discuter.
Mais bon, vous voyez le résultat. Si demain le président de la République annonce un reconfinement général, on se dira, mais pourquoi on n'est pas passé au télétravail plus tôt? Ça aurait pu changer la donne.
Non, parce que le télétravail, là, nous avons eu la première vague, hein, le confinement de mars à mai.
Oui.
Le télétravail, avant, c'était 3%, 4%, les chiffres ne sont pas encore très précis. On est monté jusqu'à 25% parce que c'était un télétravail contraint, obligé. Et n'oublions pas
hier,
que...
Hier, le patron du MEDEF a dit il y a 30% des salariés du privé qui sont aujourd'hui en télétravail.
Oui, en télétravail partiel.
C'est-à-dire deux jours, trois jours maximum.
Est-ce que c'est suffisant, Bertrand Martineau, cette configuration à mi-temps en télétravail dans la durée? Parce que si demain il y a confinement, ok, on se confine pendant un mois, confinement généralisé, mais il va falloir en sortir de ce confinement. Et c'est ça qui n'a pas fonctionné lors du déconfinement en mai dernier. C'est qu'on a repris nos petites habitudes, on est retourné au travail.
Il faut bien distinguer une période de crise sanitaire aiguë. On peut imaginer effectivement non seulement des reconfinements. Donc un reconfinement, ça empêche d'aller travailler, sauf effectivement dans les secteurs qui avaient été listés par le gouvernement à l'époque. Dans les secteurs qui sont indispensables pour l'activité pour la vie de la population, le nettoyage, le commerce alimentaire de base, etc. Donc il faut distinguer ce télétravail forcé, qui est évidemment assez insupportable pour une grande majorité de personnes, et puis qui pose des problèmes d'organisation colossales aux entreprises, avec le télétravail en régime de croisière. Et le régime de travail, on va reparler certainement du télétravail en régime de croisière, ce n'est absolument pas quelque chose de forcé, contraint.
Oui.
Ça n'a strictement rien à voir. Il faut bien distinguer les deux sujets.
Encore une fois, pardon, mais demain, si le président de la République annonce, dans les 48 heures, un reconfinement généralisé pour 4 semaines, 5 semaines, 6 semaines, c'est la France du télétravail. Oui. On passe tous au télétravail.
Pour ceux qui peuvent télétravailler, effectivement.
Benoît Serre.
Non, c'est vrai que s'il y a un reconfinement général qui est décidé par le président de la République, alors, de fait, on est en télétravail, parce que vous pouvez pas être en télétravail. Si vous pouvez pas vous déplacer, vous êtes forcément en télétravail, ou alors vous êtes en chômage partiel, ou alors vous êtes en vacances.
Oui.
Mais il y a un problème de statut, déjà. Donc vous serez en télétravail. Mais ça, c'est télétravail forcé, et Bertrand Martineau a raison de rappeler que les discussions qu'on a sur télétravail partent toujours de cette expérience du confinement, qui n'est pas le télétravail. Il est contraint, avec, selon les cas, les enfants à la maison, pas
mais surtout,
maison.
Les entreprises n'étaient pas prêtes
alors,
à mettre leurs salariés
c'est ça. L'autre
en télétravail.
Point, c'est que le chiffre n'est pas très clair, effectivement, en France. Bon, on sait que la France est très en retard par rapport, par exemple, à des pays d'Europe du Nord sur le télétravail, et qu'on n'a pas tellement pris d'avance.
Oui.
C'est-à-dire que ça pose des questions d'organisation, ça pose des questions de management, ça pose des questions d'outils. Alors là, on peut imaginer que ça va se passer un tout petit peu mieux parce que les entreprises ont appris. Mais je peux vous dire que en mars, en 48 heures, des entreprises ont découvert que elles n'avaient pas d'ordinateur portable pour tous leurs collaborateurs, qu'elles n'avaient pas les réseaux sécurisés qu'il fallait, etc. Puis après, vous avez d'autres types de problèmes qui se posent sur l'acceptation des gens à vivre en télétravail.
Ouais, l'acceptabilité. Alors c'est vrai pour les entreprises privées, et puis on verra que pour la fonction publique, c'est encore plus vrai. C'est le syndrome du cordonnier le plus mal chaussé. À tout de suite. On se retrouve avec le Club des Idées.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
19h31, on est toujours avec le débat du Club des Idées, et ce soir on s'intéresse au télétravail. Télétravail pour tous et dans la durée, ce pourrait être, encore une fois, l'une des grandes annonces faites demain par le Président de la République. On attend son allocution à 20h. Alors, c'est vrai, Bertrand Martineau, économiste et spécialiste de l'emploi et du travail chez CACI Saint-Honoré, c'est vrai qu'on a le sentiment que les entreprises sont plutôt réticentes à cette généralisation du télétravail. Pourquoi ?
Alors, historiquement, oui. C'est-à-dire que, comme a rappelé Benoît Serre, la proportion de salariés qui font du télétravail en France, avant la crise, était très fortement inférieure à, en particulier, les pays d'Europe du Nord ou les pays anglo-saxons.
Pourquoi ?
Alors là, c'est plutôt le DRH Benoît Serre qu'il faudrait interroger, mais ça renvoie probablement au mode...
Y compris quand on a commencé à parler de mesures supplémentaires, de tours de vis supplémentaires face à la crise sanitaire et à cette seconde vague, le MEDEF, par la voix de Geoffroy Roux de Bézieux, a dit « Oulala, des négociations, ok, on veut bien avec les syndicats », il y était opposé initialement, et puis il a dit « Pas de contraintes, par contre, pas de contraintes, s'il vous plaît ».
Ça, c'est autre chose. Alors, les réticences de beaucoup d'entreprises françaises et de managers au télétravail, et puis ensuite, il y a la façon dont on l'organise. Donc, le pas de contraintes, ça, je pense que c'est plutôt une bonne idée. Bon, et que l'État ne légifère pas sur tous ces sujets. Bon, et décide ce qui doit être télétravaillé, ce qui ne doit pas l'être, enfin bref. Donc, si on revient à votre question sur les réticences, ça doit renvoyer un peu au mode un peu typiquement français d'organisation du travail, dans lequel on a une organisation du management traditionnellement, alors c'est évidemment pas vrai dans toutes les entreprises, mais qui est par rapport aux pays anglo-saxons, qui est plus contrôlant, qui laisse les salariés plutôt moins autonomes. Hein. Pour le télétravail, il faut que les salariés soient quand même autonomes.
Oui.
Hein. Or en France, on est quand même dans cette culture hiérarchique, pyramidale, avec le risque de perte de contrôle.
Il y a des groupes qui y arrivent très bien. J'ai vu que Facebook avait passé 50% de ses salariés en télétravail. PSA a vocation à passer 40 000
salariés. Non, mais les choses évoluent, mais historiquement, c'est un peu ce qui s'est passé.
Il y a un mouvement qui est en marche, Bernard Vivier. Vous êtes directeur de l'Institut supérieur du travail.
Oui, mais je rejoins les autres participants à ce débat. Le mouvement est en marche tout doucement. PSA a beaucoup, avec beaucoup de volonté, voulu faire ça. Il y a 40 000 salariés. Pour l'instant, il y en a 18 000. Un jour et demi sur site. 3 jours et demi en télétravail. Pour ceux qui sont éligibles au télétravail, un ingénieur, un opérateur qui monte des véhicules,
oui,
qui assemble des véhicules, lui, il ne le peut pas. Donc, ça a été dit, il y a globalement la moitié des emplois en France qui peuvent en partie être télétravaillés. Donc, c'est vraiment une petite partie. Et puis, l'objection majeure, c'est que c'est la question de la communauté d'entreprise. Le télétravail dilue le sentiment d'appartenir à un groupe, dilue le lien collectif.
C'est vrai, mais quand on est dans un contexte sanitaire tel que l'on le connaît aujourd'hui, est-ce que l'idée de travailler à distance pour sauver l'entreprise, sauver l'économie et sauver nos emplois, est-ce que ça ne devrait pas primer sur le collectif ?
Oui, en revenant toujours à cette distinction, en période exceptionnelle, en période de crise, en période de graves difficultés sanitaires, oui. La première, le printemps dernier nous l'a montré, il y avait à peu près 25% de salariés en télétravail, il y en avait 45% qui étaient en chômage partiel et ou en congé, et 30% qui étaient sur site.
Mais depuis,
ça s'appelle une situation tout à fait exceptionnelle.
Mais depuis, les entreprises se sont sans doute, vous allez me répondre les uns et les autres, organisées. Alors, moi, je voudrais juste avoir votre point de vue, Benoît Serre, vous êtes vice-président de l'Association nationale des DRH, vous connaissez bien le sujet, évidemment, et vous êtes directeur de Boston Consulting Group, 500 salariés, je crois. D'abord, sont-ils en télétravail, vos salariés?
D'abord, dans le monde, le Boston Consulting Group, c'est 20 000 personnes, et il y a effectivement une activité qui permet largement le télétravail, donc une bonne partie est en télétravail.
500 en France,
c'est un peu plus de 500.
Vous voulez dire.
Mais voilà. Non, ça, oui, c'est-à-dire qu'effectivement, en fonction des activités, le télétravail est plus ou moins accessible, si vous voulez.
Mais je vous pose la question, parce que quand on regarde les chiffres, là, les études, en préparant ce débat, j'ai été regarder quelques études. Moi, j'ai le sentiment que les salariés, ils sont plus productifs quand ils sont en télétravail. Chercheurs de la Harvard Business School et de l'Université de New York ont montré qu'on consacre 49 minutes de plus par jour lorsqu'on est en télétravail. Donc on travaille plus. Alors après, est-ce que c'est souhaitable pour le salarié ? C'est un autre sujet, mais en tout cas pour l'entreprise, visiblement, c'est profitable. Et puis, une étude du même MIT montre que les salariés en télétravail sont plus heureux, et donc moins malades, et donc moins stressés, et donc plus productifs. 31% de productivité en plus. Donc je vous repose ma question, pourquoi est-ce que le patronat est opposé au télétravail ?
Alors, c'est pas tout à fait comme ça que les choses se passent. Premier point, ce que disait Bertrand Martineau est tout à fait juste, la France a un modèle de management très fondé sur le présentéisme. C'est pas que la faute des managers. Hein. Notre modèle social est fondé sur le présentéisme. On calcule le progrès social depuis plus d'un siècle en fonction du nombre d'heures qu'on fait dans la semaine. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a un modèle qui est très présentéiste, qui explique une partie du retard qu'on avait sur le télétravail. La seconde chose, c'est que le télétravail tel qu'on l'a connu, ça a été rappelé, n'est pas le vrai télétravail. Tout ce que vous venez d'évoquer est exact. Toutes les études, même avant le confinement, ont toujours montré que les gens sont plus productifs en télétravail. Mais sous deux réserves. La première, c'est qu'ils soient managés comme étant à distance et pas par un système de contrôle toutes les 10 minutes sur ce qu'ils font, mais sur ce qu'ils produisent. Or, la France a un modèle d'évaluation du management qui est beaucoup plus fondé sur la manière dont les gens font les choses que sur les résultats attendus, contrairement aux anglo-saxons.
C'est la culture du petit chef, en fait.
C'est un peu la culture du petit chef, contrairement aux anglo-saxons. Vous savez qu'aux États-Unis,
si le salarié n'est pas présent, ça veut dire qu'il va moins travailler.
Exactement. C'est une espèce d'a priori.
Oui,
vous savez, aux États-Unis, par exemple, vous savez, il y a une règle simple, on parle beaucoup, c'est de l'anglais, le act and figures. C'est-à-dire, qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que ça produit? En France, on s'intéresse beaucoup à la manière dont les gens font. Premier point. Second point sur l'explication, une des explications du télétravail, c'est qu'effectivement, on a le sentiment que quand les gens ne sont pas là, alors ils ne travaillent pas. Or, je peux vous dire, pour l'avoir vu et étudié 10 fois, quelqu'un qui travaille pas dans son entreprise ne travaillera pas chez lui, et quelqu'un qui travaille dans son entreprise travaillera chez lui. Autrement dit, vous n'avez pas d'effet sur la productivité individuelle. Par contre, ce que disait Bertrand Martineau est juste, vous pouvez avoir un effet sur la productivité collective si vous n'adaptez pas le management.
Oui.
C'est ça l'un des sujets.
Alors justement, Bertrand Martineau, est-ce que ça peut avoir un impact si demain la France entière passe en télétravail ? Alors pendant la période de confinement, si elle a lieu, évidemment, mais dans la durée, dans les 6 prochains mois, dans la prochaine année, dans les 2 prochaines années, pourquoi pas ? Est-ce que ça peut avoir un impact sur l'économie et de quelle manière ?
Alors très certainement. Alors il y a une étude intéressante qui montre que ce qui a été fait par une start-up, Boosters, qui montre que environ 62% des salariés aujourd'hui pourraient en partie télétravailler. Peut-être qu'une...
Combien peut-être vous dites 62%?
Oui, alors c'est vraiment le haut de la fourchette, mais ils ont fait un travail sur 3000 métiers, ils ont scanné toutes les compétences qui sont liées à ce métier, et compétence par compétence, ils les ont classées en 3 catégories, celles qui peuvent absolument pas être télétravaillées, par exemple le boulanger, celles qui peuvent être en partie télétravaillées, par exemple, on n'y pensait pas il y a quelques années, mais un médecin, il peut en partie faire du télétravail, par exemple, téléconsultation. Un juge, bah, il peut, quand il est en audience, c'est du présentiel, mais il peut préparer ses dossiers
donc
en télétravail.
Donc l'économie peut fonctionner avec le même
niveau de croissance. Et troisième catégorie, ceux qui peuvent être totalement télétravaillés, c'est beaucoup dans des fonctions support des entreprises, l'informatique, la finance, le juridique, la stratégie,
mais
le marketing.
En quelques secondes, et puis on va marquer une nouvelle pause, mais pour répondre à ma question, ça veut dire qu'on peut continuer à faire fonctionner l'économie, à avoir une croissance acceptable une fois qu'on sera sorti de tout ça, en télétravail.
Oui, alors pas à 100%, parce qu'il y a tout ce que disait Bernard Vivier tout à l'heure. C'est, il y a d'ailleurs des entreprises, il y a IBM par exemple, je crois, qui a renoncé au télétravail à haute dose, tout simplement parce qu'ils se rendaient compte que, en termes de créativité, en termes d'interaction humaine, eh bien, en fait, l'entreprise n'y trouvait pas son compte.
Oui, on perd l'émulation de groupe.
Voilà. Et la deuxième condition pour que ça fonctionne, c'est de penser le télétravail. Donc, non seulement repenser les formes de management qui vont avec, c'est pas qu'une question technologique, loin de la télétravail, c'est parler de la question de la conciliation vie familiale, vie professionnelle, c'est de reposer la question de la frontière entre le salariat et l'indépendant, parce que qu'est-ce que c'est qu'un salarié qui est en télétravail intégral, ça ressemble quand même beaucoup à un indépendant.
Bien, ce sera tout l'objet des négociations qui sont en cours, et à mon avis qui vont s'accélérer après les annonces du président de la République. On me fait bof bof de la main, mais on en reparle dans quelques secondes, 19h40, à tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
19h42, on est toujours avec le débat du Club des Idées. On parle ce soir du télétravail pour tous. Ce serait l'une des annonces que pourrait pousser demain le Président de la République avec cette allocution à 20h. Tiens, je voudrais votre avis, Benoît Serre, vice-président de l'Association Nationale des DRH, sur cette allocution. On va sortir l'espace de quelques secondes de notre thème du télétravail. Est-ce que vous, pour l'économie française, avec la vigie qui est la vôtre, vous êtes... très inquiet de ce reconfinement, si reconfinement il y avait?
Ça serait difficile de vous dire non, parce qu'il faut bien comprendre que ce reconfinement, s'il est décidé demain, va se poser sur un corps économique très fragilisé, très malade, soit parce qu'ils ont des problèmes économiques, soit parce que d'une certaine manière les entreprises sont dans une phase instable depuis des mois, et donc elles ont une dynamique cassée, même si on a essayé de la redémarrer un peu en septembre. Et puis il va surtout se poser sur un corps social épuisé, inquiet, anxieux, sanitairement, mais surtout pour son emploi. Donc, c'est pas du tout la même configuration qu'en mars, où ça se posait sur des entreprises qui, globalement, allaient plutôt pas mal.
Ouais.
Là, ça se pose sur les entreprises. Et puis, dernier point, ça rajoute encore à une forme d'instabilité.
Bien sûr.
Qui va durer encore des mois. Et le défaut de perspective, c'est ce qu'il y a de pire dans une entreprise, et pour ses dirigeants, et pour ses salariés.
Bernard Vivier.
Oui, le mot incertitude, le mot inquiétude, ce sont deux mots qui caractérisent beaucoup la situation. Un chef d'entreprise, un ingénieur, un commerçant, un financier, il aime pas l'incertitude. Il veut savoir si oui ou non, il aura des clients, il aura des salariés, il aura des fournisseurs, il aura des personnes pour transporter ses marchandises. Et nous sommes dans une période, une situation grise qui n'est pas claire, qui n'est pas nette, et nous avons donc cette inquiétude. Nous sommes là dans toujours cette même dialectique que nous connaissons malheureusement depuis plusieurs mois, c'est-à-dire la dialectique, il faut protéger les personnes, et puis la dialectique, il faut protéger l'activité économique, maintenir l'activité économique. Donc certaines organisations syndicales mettent le curseur sur préservons la santé des salariés, ne les envoyons pas au travail,
oui.
Et d'autres disent, il faut conjuguer les deux.
Une question très pratique, messieurs. Est-ce qu'un salarié peut exiger de son entreprise de travailler à distance dans le contexte actuel? Qui veut répondre?
Benoît Serre. C'est assez compliqué. C'est-à-dire que le télétravail, il est volontaire. Donc un salarié doit exprimer sa volonté de le faire. Deuxièmement, c'est un droit maintenant, depuis 2017. Ça veut dire qu'un salarié, on peut lui dire non, mais il faut lui dire pourquoi on lui dit non. Et qu'est-ce qu'on met en place pour que ce soit éventuellement possible?
Mais si moi je dis,
et dans
je
la
me
situation,
sens en danger dans mon entreprise à cause de la crise sanitaire, voilà, j'ai envie de travailler.
J'allais arriver à ça. C'est-à-dire que ça, c'est la troisième catégorie, d'une certaine manière, qu'on a vu un peu apparaître au début et puis un peu moins maintenant, qui est le droit d'alerte, d'une certaine manière, le droit de retrait. C'est-à-dire que le salarié va dire, attendez, moi je suis en télétravail parce que je considère que les mesures que vous avez mises en place ne me protègent pas. Et d'ailleurs, ça avait été un des sujets, puisque vous vous souvenez peut-être que le 31 août, le gouvernement avait subitement supprimé le décret qui protégeait les personnes vulnérables.
Absolument.
Le jour même où il mettait un nouveau protocole.
Donc, oui.
Déjà, c'était un peu bizarre. Et ça, c'est un sujet qu'on a eu à traiter. C'est-à-dire que des gens qui venaient vous voir, ils disaient, mais moi, je dois télétravailler parce que je vis avec une personne vulnérable. Et bon, après, ça s'arrangeait.
Donc, pour répondre à ma question.
Mais fondamentalement, il peut, un salarié aujourd'hui, il peut se voir contraint de venir au travail. Mais il faut le démontrer quand même.
Bertrand Martineau, aujourd'hui qu'on termine peut-être sur la fonction publique. Pourquoi est-ce que dans la fonction publique, le télétravail, ça ne fonctionne pas? Il y a quand même un paradoxe énorme. C'est l'histoire un peu du cordonnier, je le disais tout à l'heure, mal chaussé. Le gouvernement appelle au télétravail pour les entreprises privées et va sans doute renforcer le discours demain. Mais les fonctionnaires, eux, ou les agents de la fonction publique, n'ont pas la possibilité de le faire parce que la fonction publique n'est pas outillée pour le faire. Il n'y a pas d'ordinateur, il n'y a pas les outils à distance, il n'y a pas les bons logiciels. C'est quand même très paradoxal.
Tout à fait, mais vous voyez bien que la réglementation ne s'y oppose pas. Hein, c'est un problème d'outillage et de management, en fait. Alors, il y a un contre-exemple tout près de nous, c'est la région Île-de-France, hein, qui a, en même temps qu'on a été dans l'open space, à la région Île-de-France, il y a eu 2 jours de télétravail pour tous les salariés de la région Île-de-France. Ça s'est très, très bien passé. Et alors, j'y étais, et je peux vous dire qu'on a gagné en productivité, c'est-à-dire que, de toute évidence, les agents... généralement, ont beaucoup de temps de transport, ont redonné une partie de leur temps de transport en temps de travail.
Oui.
Et j'ajouterais de manière alors vraiment très cash que les agents qui étaient très performants, qui travaillaient beaucoup, ont travaillé encore mieux, étaient encore plus motivés, étaient plus productifs, et ceux qui n'étaient pas très motivés, qui travaillaient pas beaucoup, eh ben chez eux, ils travaillaient pas moins. Finalement.
C'est
et globalement, ça s'est très bien passé. Mais j'insiste sur le fait que ça ne peut marcher en termes de fonctionnement d'une organisation publique, en l'occurrence, mais comme privée, pour qu'il y ait un collectif, ça ne peut pas être plus de 2 jours par semaine. Au-delà, vous ne voyez plus les gens, et le manager, il ne manage plus.
C'est la question que j'allais vous poser, Benoît Serre. Quelle est la bonne manière, si tant est qu'il y en ait une, de manager à distance?
C'est une bonne question. Le premier point, sur le nombre de jours de télétravail, on sait que le tout télétravail est dévastateur. On avait fait une enquête à NDRH-BCG en juin qui montrait que les DRH disaient 2 jours et demi.
Ça veut maximum, dire qu'il y a un seuil de basculement.
3 jours. 3 jours, vous basculez dans un autre monde, vous passez plus de temps.
Quel que soit le salarié, quelle que soit sa motivation.
Ça, c'est la première chose. Le management à distance, c'est ça qui a beaucoup changé. D'ailleurs, certains managers se sont révélés très bons à distance, alors qu'ils n'étaient pas très bons sur site et inversement. Donc, vous voyez, il y a aussi une évolution de la manière dont on évalue les managers. C'est de la bienveillance, c'est de la confiance a priori et pas du contrôle a priori. Et ça, c'est la vraie révolution du management que le télétravail devra permettre demain si on veut l'installer. C'est-à-dire partir du principe que les gens font bien leur boulot et pas partir du principe que je vais d'abord contrôler s'ils le font bien.
C'est toute la culture française qui
faudrait changer. Toute la culture française. Et donc, on a des enjeux d'enseignement, on a des enjeux d'enseignement de management pour justement sortir du command and control parce que finalement, le couple bienveillance, autonomie, confiance, la triplette, est préférable que commande and control. Mais ça, c'est 50 ans de culture managériale, donc ça va être un peu long, et c'est un peu une bonne nouvelle. Les entreprises aujourd'hui travaillent en même temps 3 choses. Le télétravail, le management, et la raison du site de travail.
Alors, on attend demain les annonces du président de la République, et je vous propose qu'on se retrouve à l'issue du confinement, si confinement il y avait, et on fait le bilan du télétravail en entreprise. Merci à tous les trois, messieurs, merci d'avoir participé au débat du Club des Idées.
Europe 1, Julien Bugier.